L'homme que je reçois cet après-midi est spécialiste de la biodiversité marine, mais aussi continentale. Il enseigne à la Sorbonne à Paris. Il préside le conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Son nom est Gilles Boeuf. Et pour lui, la préservation des écosystèmes doit être le souci de tous à l'heure où nous vivons dans cette sixième grande extinction de masse. Aujourd'hui, la biodiversité est menacée pour différentes raisons qui sont désormais bien identifiées. Jusqu'où pouvons-nous accepter les pertes de cette diversité biologique? Quelles sont les mesures efficaces à prendre aujourd'hui pour tenter de renverser le processus? On en parle ensemble avec Gilles Boeuf et avec vos messages 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Camille passera au vert dans quelques minutes.
Et à Radio France, comme tous les vendredis, ouais. Là je vais vous emmener dans les entrailles de la maison de la radio, on va voir la centrale thermodynamique.
C'est presque du Jules Verne. Dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Michael, qui est herpétologue et qui viendra vous donner un coup de main si vous avez un serpent dans votre jardin. Caroline Tourbe, bonjour.
Bonjour.
Quel sera le sujet de votre chronique détox tout à l'heure?
Nous allons parler de la bombe démographique. Explosera-t-elle, n'explosera-t-elle pas? A-t-elle déjà explosé? On va voir ça.
Et puis enfin, notre invité découverte est Vladimir Vazak. C'est un journaliste qui viendra nous présenter un reportage qu'il a tourné cet été pour Arte sur les incendies dans la forêt sibérienne. Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré, réalisée bien sûr par Valérie Ayestaraï.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Gilles Boeuf.
Bonjour.
Bienvenue dans la Terre au carré. Vous êtes biologiste marin, professeur donc à la Sorbonne et vous présidez ce conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité que les Français ne connaissent pas forcément très très bien.
Pas vraiment très bien. Ouais. En plus, ça va pas s'arranger parce qu'on va changer de nom dans quelques mois.
Ah ben bravo.
Avec le rapprochement avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Quelle est la mission de cette agence?
En fait, elle avait été créée à l'époque, juste après les restrictions sur la COP21, du temps de Ségolène Royal, pour mettre en place quelque chose qui ferait que nous ne mettrions jamais aucun projet en cours sans regarder les impacts sur la biodiversité. Et au départ, elle a fusionné quatre organismes, qui étaient l'ATEN, qui était l'ONEMA, qui était les aires marines protégées et les parcs naturels nationaux. Et aujourd'hui, donc, elle va être rejointe par, justement, l'Office national de la chasse. Le but, c'est effectivement de... Dans toutes les circonstances, parler de biodiversité, regarder l'impact de tout ce qu'on fait, puis surtout beaucoup d'éducation, fomenter de la recherche, mais fomenter aussi de plus en plus d'éducation.
Ouais. C'est efficace ou pas, alors, le fonctionnement? Allez, soyez franc, Gilles Boeuf.
Écoutez, elle n'a pas encore 2 ans. J'aurais aimé qu'elle soit encore plus efficace que ce qu'on fait. On fait ce qu'on peut, parce que malheureusement, on a fait une synergie d'organismes qui étaient déjà là, sans augmenter encore les moyens. Donc, mais bon, elle a au moins l'immense mérite d'exister. Et je pense que si elle arrive à trouver sa vitesse de croisière, ça serait très important pour nous tous.
Vous avez consacré votre carrière à la biodiversité, Gilles Boeuf. Lorsque vous avez commencé justement en tant que biologiste marin, est-ce qu'il y avait déjà des signaux préoccupants pouvant laisser c'est imaginer ce que nous vivons là aujourd'hui en 2019 sur la planète.
Il y en avait quelques-uns. Moi, je me rappelle des premiers textes sur les abeilles, par exemple. C'est 74, ça fait un petit peu de temps. On vivait peace and love, c'était la révolution écologiste aussi. On démarrait beaucoup de travaux en écologie fondamentale, dans la science écologique. Et il y avait quelques nuages qui s'amoncelaient sur l'avenir de la planète et des humains, bien sûr. La planète, elle s'en fout, je dis toujours, ce sont les humains qui sont concernés. Mais ça a vraiment amplifié à partir de la fin des années 90, avec des travaux très sérieux, d'inventaire, des travaux sur ces interactions climat-vivant. Et puis, vous savez que le premier papier dans une très grande revue, dans Science, sur ces questions-là, il n'a que 20 ans, il est de 1997. Il y a eu des donneurs d'alerte avant, bien sûr, on avait eu Avant que la nature meure, bien sûr, de Jean Dorst, Le printemps silencieux, de Rachel Carson, ouais. Les films de Kubrick, les ouvrages de Barjavel, tous ces gens-là avaient été des grands annonceurs de ce qui pouvait se passer. Et puis ça va accélérer. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'effraie, moi j'ai commencé vraiment il y a 20 ans, c'est que l'accélération est effroyable. On nous parle en 12 ans, 15 ans, on fait disparaître 30% des oiseaux communs des champs agricoles en France. Le travail allemand de l'an dernier, 27 ans, on perd les 3/4 des insectes qui volent. Il y a un travail australien récemment de 2019, mars 2019, qui nous montre que c'est partout pareil. Et que finalement, bien sûr, on perçoit ces menaces qu'on évoque en permanence. Ouais. Ça accélère en permanence.
Ce qui est peut-être différent, Gilles Boeuf, puisque vous citez là des études très très marquantes, mais qui ont marqué aussi le grand public. C'est-à-dire que là, on a entendu les scientifiques. Est-ce que c'est pas ça finalement ce qui est en train de changer? C'est qu'aujourd'hui, on écoute la science finalement.
Bien sûr, mais grâce à vous. Il faut que les médias.
Oui, enfin, c'est surtout grâce aux scientifiques.
Bien sûr. Mais vous savez, vous rappelez cet appel qu'on avait fait en 92 au deuxième sommet de la Terre à Rio en disant. C'est la priorité. On a récidivé, donc vous vous souvenez, en novembre 2017, 15 000 scientifiques, c'est la priorité. Hein, si on ne réussit pas les questions liées justement à comment on étudie ce climat, est-ce qu'on empêche de trop changer, comment on arrive à arrêter cet effondrement du vivant, ça ne marchera pas. On a l'IPBES qui est un peu l'équivalent du GIEC climat, donc cette année là, au mois de, le 6 mai 2019, le rapport sort en disant on va perdre dans les 10, 15, 30, 40 années qui viennent entre un demi et un million d'espèces. Alors c'est bien repris par la presse, ça fait du buzz, mais il faut encore aller beaucoup plus loin. Et dans nos travaux actuels, on se rend compte que les gens sont beaucoup plus inquiets sur ce qui concerne le climat plus que sur l'effondrement du vivant.
Ouais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement pour essayer de faire en sorte que voilà, on soit vraiment touché au point de changer vraiment les choses nous à notre échelle aussi.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, pour qu'on vraiment tout le monde s'en empare, il faut que ça passe dans les tripes. Je dis souvent ça quand je fais mes conférences. Je suis pas encore parvenu. C'est encore intellectuel. Il y a des réactions très très fortes. Hein. Si ça passe dans les tripes, tout le monde sera concerné. Quand j'écoute cette petite gamine suédoise, Greta, notre amie Greta, elle vit ça avec ses tripes. Alors si tout le monde était comme ça, ça changerait beaucoup de choses en fait. Je fais mes conférences, on me dit bah oui. Récemment, je recherchais une grenouille que Darwin avait décrite en Patagonie il y a plus de 100 ans. La petite Rhinoderma darwini, elle s'en va dans l'indifférence générale. Elle s'en va pourquoi? Parce qu'on remplace ces grandes forêts d'araucaria qui vivent entre 1000 et 3000 ans par des eucalyptus et des pins. J'étais au Groenland cet été. Les grands glaciers d'Ilulissat n'ont jamais libéré autant d'icebergs de volume incroyable. Donc, on vit cette double question, sachant qu'il faut bien dire aux gens que la perte du vivant, c'est pas uniquement et loin de là lié au changement climatique. Hein. C'est une des causes, mais pas la seule.
Mais c'est terrible finalement pour vous qui êtes scientifique de voir que c'est une jeune fille de 16 ans qui prend la population aux tripes et les jeunes générations en particulier. Et ça, les scientifiques n'arrivent pas à le faire.
Ben moi, et complètement, et ce qui m'a, mais alors écœuré, je pèse mes mots, c'est les attaques dont elle a été l'objet de gens, des vieux mâles, cons, je pèse mes mots et je le dis devant tout le monde, qui ont attaqué cette jeune fille. C'est une Elle est jeune, elle est fille, et elle est malade, paraît-il. Elle est autiste, Asperger. Et quand elle raconte des choses, je défie quelqu'un de me dire que ce qu'elle a dit là n'est pas vrai scientifiquement. Elle étudie ce qu'on fait, elle le dit. Et ça, c'est très, très important. Alors après, on peut discuter de l'importance d'amener une petite fille dans l'Assemblée nationale. C'est autre chose. Mais sur ce qu'elle a dit, il y a un très beau texte de L'Ecclésio qui la défend très fort aussi.
Oui, vous qui avez été très proche de Ségolène Royal, hein, pendant qu'elle était ministre, justement, de l'Environnement, les hommes politiques, évidemment, ils ne sont pas à la hauteur aujourd'hui des enjeux. On le sent bien. La démocratie est bousculée, d'ailleurs, par ça. On voit bien les mouvements aujourd'hui, tous ces gens qui défendent dans la rue, qui défendent différentes choses d'ailleurs, mais sur la question environnementale, on voit que les politiques ne sont pas à la hauteur. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, pour que ça change aussi dans leur tête à eux, véritablement?
Le plus gros défaut, c'est qu'ils n'ont aucune formation en écologie. Hein. Même, alors, j'étais intervenu avec vous il n'y a pas très longtemps en disant qu'on va abîmer l'essence de la vie et de la terre, on ne va plus les enseigner de façon correcte dans les lycées. On va en reprendre maintenant au niveau du primaire et puis des collèges. Comment nos enfants seront capables de faire le démêlé de toutes les fake news s'ils n'ont pas un esprit critique? Il faut des connaissances et développer un esprit critique. De l'écologie à l'école maternelle, à l'école primaire, y compris dans les grandes écoles, à l'école nationale d'administration, il y en a un petit peu à Polytechnique. Donc, qu'ils sachent tous que nous sommes faits au moins autant de bactéries que de cellules vivantes et que nous coopérons en permanence avec ce vivant. On ne peut pas s'en passer. J'étais invité par le MEDEF, il y a juste un an, à l'école d'été du MEDEF. Ils me disent, ben, Gilles, vous venez, sale temps pour la planète. Je leur dis non. Il n'est pas pour la planète, le sale temps. Il est pour les humains qui sont dessus. Et faire comprendre que si on rate ça, on réussira rien d'autre. Et ça concerne absolument tout le monde.
Mais la société, elle bouge beaucoup plus, finalement, que...
Bah, je pense que c'est le court-termisme. Vous savez, si on est obsédé par sa réélection, ça marche pas, parce que les mesures à prendre, elles sont difficiles, elles sont courageuses, elles sont impopulaires. Donc c'est vrai que là, il faut dire aux gens, écoutez, on va souffrir un peu maintenant pour éviter de grandes souffrances dans le futur. Si tout le monde est d'accord là-dessus, regardez ce qui s'est passé avec la chlordécone à la Martinique. On autorise un produit interdit, hyper dangereux, pour gagner 5 centimes sur le prix du kilo de banane. Et on empoisonne des îles pour deux siècles. C'est
alors
pas possible de continuer
qu'on peut obtenir
ça.
Des résultats quand on le veut. On le voit avec la couche d'ozone, on en parlera justement lundi dans l'émission. Là, c'est vraiment un effort qui a été récompensé quand même. Hein, même si, bon, il y a encore des petits problèmes aujourd'hui, mais quand même.
Bien sûr, puis les abeilles ont été un joli modèle aussi, puisqu'on sait que si elles s'en vont, c'est 200 milliards d'euros par an de services qu'elles nous rendent.
Gilles Boeuf, vous êtes l'invité de La Terre au Carré. Les auditeurs ont des questions à vous poser pour dialoguer avec vous. 0145 24 7000 au standard et puis également sur les réseaux sociaux. À tout de suite.
France Inter. La Terre au Carré.
Et on aime le vendredi dans Camille Passauvert, Camille Cronier, car évidemment on parle de l'écologie à Radio France et vous nous faites découvrir aujourd'hui la centrale thermodynamique de la maison de la radio.
Et oui, parce qu'on a beau ne pas trier les déchets à la cantine ou trouver pas top top la gestion de la question environnementale, il y a aussi des choses que l'on fait bien, et là tendez tous l'oreille. Oui, on entend d'ici le soupir de soulagement de la direction, qui n'est pour rien, hein, cela dit, dans la programmation de ce sujet. C'était prévu, il faut aussi le préciser. Je vous emmène donc dans les sous-sols de Radio France. Alors je ne peux pas vous dire où exactement, parce que le lieu est secret. Attention aussi les oreilles, préparez-vous, on entre. Et ici, alors, c'est casque anti-bruit obligatoire. Nous voici, Mathieu, au cœur de la centrale thermodynamique. Une salle de 600 mètres carrés pleine de gros tuyaux qui partent dans tous les sens, avec aussi des espèces de citernes.
Est-ce que vous pensez que tous les collaborateurs de Radio France savent que ça, ça existe ?
Je pense pas. Ils imaginent pas ce qu'il y a.
C'est quand même assez impressionnant comme salle.
Mais le bâtiment lui-même est impressionnant, donc forcément la chaufferie doit être impressionnante.
Alors lui, c'est Benjamin Roger, le maître des lieux. Il est responsable climatisation et chauffage, car cette centrale produit tout le chaud et tout le froid de la maison de la radio. Grâce à la géothermie, on pompe l'eau de la Seine grâce à trois puits autour du bâtiment.
En ce moment, on a deux puits qui tournent. On voit qu'on pompe 148 mètres cubes.
148 mètres cubes par heure, hein, ça fait environ 1000 baignoires. À la sortie, l'eau passe par des filtres pour la rendre pure. Elle est ensuite refroidie comme dans un frigo ou réchauffée grâce au moteur du frigo. Elle est ensuite rejetée dans la Seine toute propre. En plus, presque 7 millions de mètres cubes reversés depuis 2011.
Et avant 2011, alors il se passait quoi, Camille ?
Alors en fait, attendez, on va s'extraire quand même de la centrale.
Merci.
Voilà, ça fait du bien. En fait, donc, il y avait un autre forage qui puisait l'eau à 600 mètres de profondeur. Elle faisait 27 degrés, l'eau, ça c'était dans les années 60, juste après l'inauguration de la Maison Ronde. Et c'était la plus ancienne installation géothermique de Paris. Mais comme les activités se sont développées avec de plus en plus de machines, des ordinateurs, des serveurs qui ont besoin d'être refroidis, et qu'il y a eu aussi des travaux de réhabilitation, eh ben, on a changé. Captage à 40 mètres, comme ça l'eau est plus fraîche, 15 degrés, et donc plus facilement refroidissable. Le système est à la fois économique et écologique. Et là, c'est le directeur adjoint de l'établissement, Philippe Derrien, qui explique. Allez, on y retourne.
La Seine coule à 50 mètres de Radio France, alimente la nappe, hein, et nous, ça nous permet d'utiliser cette énergie renouvelable sans devoir produire plus d'électricité à travers des systèmes qui peuvent être ou d'usines à charbon ou éventuellement de centrales nucléaires. Voilà.
Et oui, on est en quasi-autonomie énergétique avec en plus un bon rendement.
Si on devait acheter cette énergie pour faire tourner les machines, on devrait acheter 4 fois plus d'énergie pour pouvoir produire le froid et le chaud. Aujourd'hui, grâce à ce système-là, on achète 1000 watts et on restitue dans le bâtiment en termes de chauffage 4500 watts.
Alors il n'y a qu'en période en fait de grand froid qu'on a le renfort de la ville de Paris. Elle nous fournit de la vapeur chaude. Il faut dire qu'il y a 120 000 mètres carrés à chauffer, hein, ou climatiser. Sans polluer, c'est quand même beau. Chaufferie surveillée 24 heures sur 24 et contrôlée par l'État. Et cette fois, Mathieu, contrairement à la cantine, on est dans les clous. Ouf ! Et on peut enfin enlever le casque anti-bruit.
Ça fait du bien. Donc la géothermie à la maison de la radio dans Camille Passauvert. Et vous pouvez bien sûr réécouter avec des bouchons d'oreilles ce sujet sur franceinter.fr.
Exactement, Gilles Boeuf, vous connaissez la géothermie ?
Ah oui, bien sûr.
C'est écologique, on est d'accord.
Bien sûr. On part du principe que l'eau a une inertie beaucoup plus grande, et donc elle varie beaucoup moins en température que l'air, et c'est super intéressant, bien sûr.
C'est pas encore l'Islande, mais quand même.
Non, alors l'Islande fournit de la chaleur, effectivement, avec ses fumerolles partout, les Açores également, il y a pas mal de pays qui aujourd'hui s'y intéressent.
Ouais. Et donc là, Mathieu, il faut imaginer autour de nous, partout dans la maison de la radio, hein, et les gens qui connaissent le bâtiment de la maison de la radio, il y a des kilomètres de tuyaux dans les murs, et l'eau circule partout avant de repartir dans la Seine.
C'est formidable, c'est Camille Passauvert et on vous retrouve dans un instant, Gilles Boeuf, avec les messages des auditeurs.
La Terre a cessé de tourner, pour moi le temps de figer une image du monde à laquelle les gens bien pourraient se fier. C'est vrai que je ne sais pas vrai en quoi penser.
biche, c'était Kepler Kepler.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, Gilles Boeuf, notre invité, avec vos messages nombreux sur franceinter.fr, sur les réseaux sociaux, hashtag l'attaque, et par téléphone également, comme Pierre, qui a composé le 01 45 24 7000 pour dialoguer avec vous, Gilles Boeuf. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous, on vous écoute, quelle est votre question?
Voilà, alors nous militons, quand je dis nous, c'est le cercle nautique de Banyuls, nous militons pour la préservation de la biodiversité. Et je voudrais poser une question toute simple. Cette réserve de Banyuls qu'il connaît bien, Monsieur Boeuf, est-ce qu'elle ne pourrait pas être étendue? Est-ce qu'elle ne pourrait pas servir d'exemple pour multiplier ce genre de réserve marine, parce qu'elle a fait depuis 40 ans la preuve de sa réelle efficacité?
Alors voilà, c'est quoi une réserve comme celle de Banyuls, Gilles Boeuf?
Alors une réserve, c'est le fait de choisir sur une carte, hein, une surface. Alors là, bien sûr, c'est dans le milieu marin, donc ça peut être plus grand que les surfaces terrestres, hein, et de la mettre en protection. Alors la protection peut varier. Il y a un cœur de parc, un cœur de réserve, où là on fait rien du tout, hein, on peut même pas nager. Et puis vous avez autour des zones qui servent de zones tampons, où on peut avoir de petites activités très soft, bien sûr, hein, même que quelques marins pêcheurs qui peuvent y aller. Au départ, quand on crée cette réserve, effectivement, il y a pas mal de vent de boute. Et maintenant, tout le monde est content, y compris les usagers de la mer, y compris les marins-pêcheurs, parce qu'elle montre bien son effet, en fait, de libération à partir de la réserve d'animaux qui vont se faire prendre à l'extérieur ou qu'on peut observer à l'extérieur. Alors, il y a eu plusieurs réserves marines, mais on montre bien que ces réserves sont efficaces quand on y met certains moyens. On a fait des tas de réserves, sans moyens, ça ne marche pas. Mais celle de Banyuls, ça marche très bien. Alors, ce que nous demande notre auditeur, oui, c'est vrai.
De l'étendre encore.
Mais bien sûr. Et alors, moi, j'avais un rêve. En plus, nous sommes à quelques kilomètres de la frontière espagnole, hein, catalane. Et donc, effectivement, l'idée au départ, c'était de faire une réserve qui allait du Cabo de Creo, hein, l'endroit où vivait notre ami Dali, jusqu'à Banyuls. Et ça, c'est toujours un fantasme que l'on a. Et
donc,
étant de la réserve de deux pays.
Vous ne lâchez pas le morceau?
Ah non, pas du tout.
Bon, c'est compliqué quand même, d'un point de vue administratif, à parvenir justement à agrandir ces zones.
Bah, c'est compliqué, mais ça pourrait se faire. On a créé depuis le parc du Golfe du Lion, hein, et qui est autour de la réserve, qu'on pourrait aussi étendre un petit peu vers le nord. Il faut que tous les usagers se mettent d'accord et acceptent que si on ne met pas une partie de nos environnements dans des conditions de préservation, pas d'interdiction totale d'accès, hein, ça ne marchera pas. Par exemple, je préside en ce moment le conseil scientifique de la plus grande réserve du monde, qui est la réserve du parc de la mer de Corail, qui fait deux fois la surface de la France.
C'est où?
Entre la Calédonie et l'Australie.
Sophie est en ligne. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci de prendre ma question. Je voulais savoir comment est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'habitants d'une ville, par exemple des Val-d'Oise, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider concrètement, pour commencer à bouger, pour essayer d'en parler autour de soi, mais faire du concret. Donc justement, tant qu'on a fait un scientifique en ligne, je voulais lui demander, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? Nous ne sommes ni ministre, ni président, ni scientifique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider?
Alors, pour la biodiversité marine en particulier, Sophie?
Aussi, oui, pour l'environnement en général, mais effectivement aussi pour la biodiversité marine.
Alors, Gilles Boeuf.
Bon, c'est très simple. Vous êtes aussi la biodiversité. Il n'y a pas que les scientifiques qui sont la biodiversité ou les politiques, tout citoyen. Le premier comportement, c'est, vous savez, vous êtes le reflet de ce qu'on mange. Qu'est-ce que vous mangez? Je faisais des cours cette semaine, les avocats viennent du Kenya et les kiwis viennent de Nouvelle-Zélande. Ben, je suis désolé, on n'en mange pas en ce moment, on n'achète pas des cerises du Chili au mois de février, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce que vous mangez? Avec mon ami Thierry Marx, hein, on a vraiment un vrai combat avec d'autres, hein, on ne mange pas une tomate entre le mois d'octobre et puis le mois de mai. Se réhabituer à la saisonnalité, c'est extrêmement important. Comment, avec vos enfants, vous en discutez? Manger moins de viande aussi, c'est absolument évident. Il faut manger moins de viande, c'est clair. Moins de poissons aussi, il faut les choisir. Prendre du plaisir. Et se dire que le coup près qui tombe, c'est pas un enrichissement, c'est le plaisir que vous prenez en association, en discutant avec des amis. Je dis souvent aux gens, pensez à tout ce que vous avez fait depuis ce matin qui sert absolument à rien, mais qui vous apporte du plaisir et du bonheur. Et ça, c'est essentiel. C'est comme ça que nous, tous ensemble, on arrivera à faire levier sur le système.
Moi, j'aime bien votre message, parce que c'est aussi mettre du plaisir quand même dans nos changements de vie. Hein.
Il faut qu'on vende un demain merveilleux, pas un demain détruit. C'est pour ça, moi, il y a des aspects auxquels je ne souscris pas. Hein.
C'est-à-dire ?
Bah, par exemple, ce qu'on appelle collapsologie, par exemple. Je suis désolé, je ne marche pas. En plus, je suis un écologue optimiste. Hein. On m'a toujours appelé comme ça. Donc, il faut dire que si on ne fait rien, ça se terminera mal notre histoire. Mais je pense, on va faire quelque chose, tous ensemble. Et cette dame a raison, elle aussi peut faire quelque chose.
Alors, vous dites tous ensemble. Frédéric, sur Facebook, nous pose la question que devraient faire les entreprises, si on parle de tous ensemble, pour préserver la biodiversité.
C'est une très bonne question. Alors, elles s'en sont emparées depuis un certain temps. Vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, on avait fait un acte entreprise pour le climat. Et là, l'an dernier, nous étions avec Nicolas Hulot à Longchamp. C'était le 10 juillet sur Act for Nature, où 100 entreprises françaises s'engageaient, comme elles l'avaient fait sur le climat il y a quelques années, vers la biodiversité. Ça veut dire, dans toute activité industrielle ou économique, quelle que soit, agricole aussi bien sûr, hein, on se pose la question. Une culture de l'impact, ça veut dire que chaque fois que je fais quelque chose, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Chercher chaque fois les moyens les plus simples, les moins coûteux en énergie, les moins polluants. Je dis souvent, se bio-inspirer de la nature. Hein, ça marche très bien, la nature, elle fait tout avec très peu d'énergie. Elle ne produit jamais un produit qui va l'empoisonner. Elle produit des poisons terribles, mais c'est les dégradés. La nature fait tout en optimisant, jamais en maximisant. Elle a toujours des acheteurs pour ses déchets, c'est magique. On peut faire comme ça. Et l'entreprise aussi, bien sûr, peut vraiment dans ce sens-là. Vous savez aussi, la question des entreprises aujourd'hui à mission n'ont plus comme seul but de faire du profit. Ils font du profit, moi je l'entends, dans SM Capitaliste, pour créer des emplois. Mais pas que ça. On a aussi une mission qui est sociale d'abord, hein, on voit les problèmes actuels aujourd'hui, et une mission d'impact environnemental la plus agréable possible. Je terminerai en disant une chose fondamentale. Une entreprise doit vivre quelque part avec des gens qui sont fiers d'y appartenir, avec des enfants, des petits-enfants, des employés, un bien-être sans détruire l'endroit là où on habite. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Julien nous dit c'est toujours un bonheur d'écouter Gilles Boeuf par sa vision globale des choses qui nous explique que tout est lié au niveau de l'environnement et de la vie sur Terre. Ce sont toutes ces interactions du vivant. Il est malheureusement édifiant d'ici de voir que les hommes politiques qui ne connaissent rien à l'écologie ne prennent pas en compte les recommandations des scientifiques. On l'a un peu dit déjà tout à l'heure, on enfonce le clou.
Pas suffisamment, vous savez, quand
Tara
revient...
Même vous qui conseillez Ségolène Royal, vous étiez au plus proche de la ministre de l'écologie à l'époque.
Mais Nicolas Hulot était ministre lui-même. Et il a pris aussi des décisions incohérentes. Hein. Quand on lance le projet sur l'huile de palme pour faire de l'énergie, on va abattre 4 loups de plus. Ça sert à quoi? Donc c'est que, moi je comprends que le loup soit un problème pour certains, et je reconnais qu'il n'y a pas de la place pour les loups partout. Mais se dire on va l'éradiquer entièrement en France comme on l'a fait 120 ans, c'est incroyable qu'on puisse encore penser ça. On veut que les Indiens sauvent le tigre et nous on n'accepte pas le loup. Donc c'est là qu'il faut qu'on discute entre nous. Et ça c'est extrêmement important. Alors avec les ministres, il y a des choses qui ont très bien fonctionné. Quand elle se bat, Ségolène Royal, pour l'annulation des sacs en plastique à usage unique, c'était superbe. Vous allez au supermarché, vous ramenez un sac qui vous sert à transporter votre tomate pendant 20 minutes, et ce sac tue en mer une tortue de 80 ans, issue de 200 millions d'évolution, parce qu'elle l'a étouffée. C'est tellement stupide qu'on en pleure, en fait.
5 à 10 mètres pour se protéger des pesticides, ça vous inspire quoi, Gilles Boeuf, ça?
Bah, c'est le même système. C'est comme qu'on avait vu croire aux Français que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté autour de l'Hexagone. C'est comme quand on dit en France, il y a 35 ans, on lance un plan énergie renouvelable, on confie ça à qui? Institut français du pétrole et commissariat à l'énergie atomique, de qui on se fout. Donc c'est pareil, 5 à 10 mètres, vous voyez ce que c'est?
Donc on se fout de nous là?
Ah bah complètement. Alors Nicolas Hulot a dit l'autre jour, bon on en parle, c'est bien, mais c'est pas possible de continuer comme ça.
Question de Camille. Brigitte sur Facebook qui vous interpelle. Pourquoi M. Boeuf participe-t-il à des croisières commerciales au Groenland, à savoir Le Monde et La Vie en 2019?
C'est une très bonne question qu'on s'est beaucoup posée avec nos amis de La Vie.
Vous l'avez vraiment fait?
Je suis allé cet été faire des conférences à des lecteurs de La Vie et du Monde. Alors, est-ce que la croisière est commerciale? J'en sais rien. En tout cas, on avait... Alors, encore une fois, on a discuté dans la revue. Le premier débat qu'on a eu avec les participants, il y avait à peu près 150 personnes. Pourquoi est-on là? On l'a beaucoup discuté, on a beaucoup évalué, et on a fini par conclure que finalement, il y a un impact. On essaie d'avoir l'impact le plus petit possible. Par exemple, moi je préside en ce moment le parc de la mer de Corail, je suis membre aussi des Terres australes d'Antarctique française, et on est sans arrêt interpellé, parce que des croisières veulent aller dans des endroits qui sont difficiles. Ouais. Alors, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi.
Mais Gilles,
si l'accès est mitigé, pourquoi pas?
Parce qu'on a fait un reportage cette semaine sur le Groenland, avec cette question des paquebots qui se multiplient absolument partout, et on voit finalement les touristes qui viennent voir les glaciers fondre. Hein, ils y vont pour ça. Est-ce que franchement, on a besoin d'aller sur un paquebot faire une conférence, ou qui en fait, à longueur d'année, des conférences, franchement, est-ce que c'est l'endroit? pour en faire.
Alors, il est tombé aussi dans le truc classique, c'est-à-dire que moi, j'étais jamais allé au Groenland, on m'offrait la possibilité d'y aller, j'étais
heureux
d'y aller.
Bon.
Ça vous décrédibilise d'aller faire une croisière au Groenland?
Si les gens trouvent que ça me décrédibilise, qu'ils le pensent. Moi, ça m'est complètement égal. Moi, je change pas ma façon de vivre de toute façon. Hein.
Mais pour l'image, le symbole.
Moi, je suis. Vous savez, nul n'est parfait. Hein. Je suis allé faire une croisière en Méditerranée il y a quelques années. Bon, c'était un bateau qui était beaucoup moins grand que les grands bateaux dont on parle. Et moi, je suis le premier à me battre contre les bateaux de 5000 passagers qui débarquent à l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie. Tout est une histoire de mesure par rapport à ce qu'on va faire. Alors ensuite, on a la faiblesse de croire que les gens qu'on a emmenés, bon, qui étaient quand même des gens, les lecteurs de la vie et du monde sont quand même très particuliers, eh bien, vont aussi contribuer en aimant ces paysages, en aimant ces milieux, en parler plus.
Enfin, vous venez de dire de ne pas acheter de tomates entre octobre et mai, et là vous êtes en train de dire qu'en fait on peut aller faire des croisières au Groenland.
Mais je n'ai pas dit ça, j'ai dit simplement que c'est un problème de mesure. On me l'a proposé, j'y suis allé. Je n'ai pas de regrets parce que j'ai été émerveillé. Voilà.
Mais vous auriez pu refuser.
Bien sûr, aussi. J'aurais pu refuser.
Ouais. Vous refuserez l'année prochaine?
Ben, j'ai vu le Groenland, maintenant j'irai ailleurs.
Bon, c'est compliqué, vous voyez.
Mais bien sûr que c'est compliqué.
C'est un exemple.
Mais vous avez raison.
Dans chacun de nos actes, de nos, et nous-mêmes, hein,
Mais vous avez raison.
On n'est pas en train de vous juger, bien sûr.
On est dans incohérence partout.
On est aussi en transition d'ailleurs.
Jean Jouzien était il y a deux ans, donc un climatologue, un écologue, parce que c'est des gens effectivement qui connaissent ces régions particulières, ils peuvent bien en parler. Est-ce qu'on doit impérativement y aller? Vous savez, j'ai passé ma vie à voyager. Air France m'a envoyé un petit rapport cette semaine, j'ai fait plus de 1 million de kilomètres. Ça allait retour Terre-Lune. Est-ce que c'est bien? Bon, c'est tout.
C'est une grande question d'ailleurs chez les scientifiques aujourd'hui.
Bien sûr.
Cette question des déplacements pour aller à des conférences. Là, pour le coup, pour du travail.
Effectivement, on freine quand c'est pour des conférences.
Et c'est un changement aussi, là.
Mais nous, on fait beaucoup de terrain au muséum. On a toujours fait du terrain. On va en Papouasie, on va dans des coins où personne n'est jamais allé. Tout ça est paradoxal, est incohérent. Je reconnais que cette dame a raison de poser la question.
Oui.
Et elle peut m'analyser mal à partir de mes réponses.
Bon, en tout cas, voilà, c'est une période aussi de transition pour tout le monde et il faut remettre nos modes de vie en question, évidemment.
Faire la transition sans trop culpabiliser, c'est pas toujours facile, non, ni pour nous, ni pour les autres.
Gilles Boss, la priorité absolue aujourd'hui, selon vous, pour essayer justement d'avancer, mais vraiment de façon ambitieuse, hein, sur la biodiversité ou le climat, ce serait quoi?
Pour moi, aujourd'hui, c'est clair qu'il faut absolument aller dans le sens d'arrêter de contaminer l'océan avec ces matières plastiques. Il faudrait que rien de toxique n'arrive à l'océan aujourd'hui. Ça, c'est fondamental. Sur le climat, ce qui va jouer beaucoup, c'est effectivement... Alors, je présidais les assises du transport aérien. On peut me le reprocher aussi. Hein. Le problème, c'est que les avions, effectivement, font de moins en moins de bruit, font de moins en moins de particules et de CO2. Mais on double le trafic aérien pour 2030. Ça fait partie des incohérences qui nous intéressent aujourd'hui. La pollution, pour moi, est l'énorme problème. Les surexploitations de stock, les disséminations de tout partout, et puis aussi, bien sûr, ce question de dévier ce climat, qui a un impact fort sur tout ça, bien sûr.
Merci Gilles Boeuf d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré. Vos solutions pour la planète juste après les infos. Aujourd'hui, Michael, qui est animateur nature et qui pourra venir chez vous si vous avez un serpent dans votre jardin.
La Terre au carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, la chronique détox du vendredi de Caroline Tourbe qui s'intéresse cette semaine à la question de la démographie. Puis notre invité découverte est grand reporter. Il revient de Sibérie où il a réalisé un reportage sur les incendies et les inondations. Reportage qui sera diffusé demain sur Arte. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète. Et nous sommes en ligne avec vous, Michael. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Mathieu.
Bienvenue Michael, vous habitez à Toulouse, vous êtes animateur nature dans cette association Nature en Occitanie et vous avez une spécialité, celle d'herpétologue. Et vous avez créé un pôle de médiation faune sauvage au sein de l'association. Ça veut dire quoi faire de la médiation dans ce domaine exactement?
Alors faire de la médiation dans ce domaine, c'est tout simplement aider le grand public à mieux vivre avec ses voisins. Alors on connaît parfois la médiation avec ses voisins humains, mais on parle aussi aujourd'hui de médiation avec ses voisins animaux. Et donc le but de ce pôle de médiation faune sauvage, c'est de pouvoir sensibiliser les citoyens, parfois les entreprises, les élus, à mieux préserver la nature pour mieux vivre ensemble sur un territoire partagé.
Mais ça frictionne souvent entre les animaux sauvages et les humains?
Alors, tout dépend de quels animaux sauvages on parle, bien évidemment. Quand on parle des oiseaux, généralement, ça se passe plutôt bien parce qu'il y a un affect particulier pour les animaux ailés. Quand on commence à parler d'écailles et d'animaux qui rampent de style serpent, lézard, araignée, ça se bouscule un petit peu plus. Et là, généralement, les gens ont un peu besoin d'aide. Et c'est cette aide qu'on leur propose aujourd'hui à travers le pôle de médiation faune sauvage.
Alors, comment on fait d'ailleurs pour faire de la médiation? Moi, j'ai eu un serpent dans ma maison de campagne. C'était une vipère. Mm-hmm. J'ai pas du tout voulu négocier avec elle. Je l'ai guettée pour essayer de la faire sortir. Ça n'a pas marché. C'est le voisin qui est venu la chercher. Comment on fait? Comment vous faites? Vous discutez? C'est quoi de la médiation avec un serpent?
Alors, cette médiation, nous, on l'a fait en plusieurs étapes. Déjà, elle repose sur un réseau de médiateurs. Donc, on a des bénévoles, des salariés et des partenaires qui interviennent sur ce pôle. Et en fait, la première des choses qu'on fait, et c'est la première question que je vous poserai si je vous avais au téléphone, c'est comment avez-vous su que c'était une vipère? Je vous pose cette question parce qu'en fait, la majorité des personnes qui nous appellent quand ils voient un serpent sont persuadées d'avoir vu une vipère. Or, la vipère, c'est deux espèces, en tout cas sur Occitanie, c'est deux espèces parmi la dizaine d'espèces qui est présente. Donc je vous poserai cette question et je vous demanderai si vous l'aviez photographiée. Ensuite, en fonction...
Pardon ? Oui, je vous écoute,
D'accord. Ensuite, en fonction de votre réponse, si vous l'aviez photographiée ou de la description orale que vous m'en avez faite, tout d'abord, je vous donnerai quelques petits éléments d'écologie pour vous rassurer sur la présence de cette espèce dans votre jardin notamment, parce que c'est un animal sauvage qui a toute sa place dans un milieu naturel. Et c'est même plutôt, je vous dirais que c'est plutôt bon signe d'avoir des serpents dans votre jardin, parce qu'en tant qu'animal en haut de la chaîne alimentaire, ça veut dire que tout le reste y est. Et je pense que Gilles Boeuf ne me contredira pas. C'est plutôt quelque chose d'intéressant.
Et s'il y a des enfants dans le jardin à côté, par exemple?
Et ben c'est là où justement je vais jouer mon rôle de médiateur et où je vais vous rassurer, parce qu'en fait les serpents sont des animaux qui sont très craintifs, qui ont plus peur de l'homme que nous on a peur d'eux, et généralement le premier comportement qu'ils observent c'est la fuite. Donc une fois que je vous ai donné ces petites notions d'écologie, généralement vous connaissez un petit peu mieux l'espèce et si vous la connaissez mieux, vous êtes plus amené à m'écouter pour la suite.
Donc Mickaël, cette action qui s'appelle il y a un serpent dans mon jardin, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est vraiment au sein de l'association que vous avez mis en place cette action, parce qu'on vous appelle régulièrement pour vous dire que voilà, il y a un serpent qui est là, dans le jardin ou dans la maison, et qu'il faut quand même quelqu'un pour venir le déloger.
Exactement. En fait, le pôle de médiation faune sauvage a été créé officiellement en 2014 parce qu'il bénéficie aujourd'hui du soutien de la région Occitanie et de l'État. Mais en fait, depuis 2009, notre réseau de bénévoles herpétologues s'est intéressé au cas des serpents et notamment a souhaité que plutôt que l'utilisation de l'appel pour tuer un serpent, on utilise plutôt son téléphone pour faire un appel téléphonique qui conduirait à éviter la mortalité de ces espèces protégées. Et aujourd'hui, du fait de la notoriété de cette action, en fait, on a entre 70 et 80% des appels qui nous concernent qui sont reliés à des serpents que les gens croisent soit au jardin, chose qui n'est pas exceptionnelle, et là généralement la pédagogie suffit à expliquer cette présence. Il n'y a pas forcément de nécessité d'intervenir hors phobie. Quand il y a un serpent qui peut se retrouver en effet dans un habitat humain, là on intervient et on fait de la sensibilisation sur place pour conseiller en vue de mieux cohabiter derrière, expliquer pourquoi ce serpent a fréquenté le milieu humain, comment éviter que ça se reproduise et comment aménager son jardin pour faire que ce serpent qui s'est retrouvé un peu malgré lui dans l'habitat humain puisse se cantonner au fond du jardin et profiter du milieu naturel.
Vous, Mickaël, votre message c'est de dire aux gens finalement ce serpent vous allez vivre avec lui, il va falloir vous y habituer, c'est pas de le déloger de la maison, c'est ça ?
Alors, de le déloger de la maison, si, parce que lui, il n'est pas dans son habitat naturel, donc il est en danger même, j'ai envie de dire, dans l'habitat humain. Mais par contre, le jardin, c'est un espace partagé aussi bien par les oiseaux, par les reptiles que par l'homme. Mais donc, nous, de manière légale, la loi nous interdit de déplacer un animal protégé tel qu'un serpent en dehors de son aire de répartition, de son territoire naturel. Et donc, c'est là qu'est le travail de médiation. On n'est pas un SOS, on n'est pas un SOS fantôme, on n'enlève pas un animal d'un endroit pour l'amener chez le voisin ou dans une autre commune. On explique qu'il est tout à fait possible de vivre avec ces animaux sans aucun danger, que ce soit pour ces animaux de compagnie ou pour ses enfants.
Voilà, et si on a un oisillon tombé du nid, on peut également contacter le pôle médiation faune sauvage de cette association Nature en Occitanie. On met le lien, évidemment, Mickaël, sur le site de la Terre au Carré, et on vous remercie d'être passé par chez nous aujourd'hui. Bon week-end à vous, Mickaël.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt.
Bien, au revoir.
Voilà, si vous aussi vous avez une initiative pour la planète dont vous souhaitez nous parler, bien faites comme Mickaël, vous pouvez nous joindre sur le site de la Terre au Carré, franceinter.fr. Bonjour Caroline Thor,
rebonjour.
Dans votre chronique Détox, aujourd'hui une question, la planète est-elle sous la menace d'une bombe démographique?
Oui. Cette semaine, l'Institut National d'Études Démographiques publie un numéro spécial sur la population mondiale et c'est l'occasion de faire le point sur une idée qui s'est imposée comme une évidence dans nos esprits. Le nombre d'humains sur la planète va exploser et l'appel à la limitation drastique des naissances hante régulièrement notre imaginaire collectif.
Au cours des 50 dernières années, la population mondiale a doublé. Tous les 4 jours, nous sommes 1 million de plus sur la planète.
C'est la plus grande crise de l'histoire de l'humanité.
Nicolette Kemann a inspiré à la Fédération sa décision de ne plus autoriser qu'un seul enfant par famille en promulguant la loi sur le quota d'enfants.
Et bâtir un monde meilleur pour nos enfants.
Ouh, ça fait peur.
Oui, ça c'est la voix de Glenn Close, la voix française de Glenn Close dans un film Seven Sisters qui est sorti en 2017. Et ce film, il y en a d'autres, mais celui-ci il est la traduction parfaite du vieux fantasme du monde confronté à la bombe démographique. Alors cette expression, la bombe démographique, est tirée du titre d'un ouvrage au succès retentissant, La bombe P. P pour population, sorti en 1968 et écrit par Paul Ehrlich, un professeur de Stanford. Il prédit que le rythme de la croissance démographique va sans cesse accélérer, toujours plus d'humains, toujours plus vite. Et il faut dire qu'en 1968, la croissance venait tout juste d'atteindre les 2% par an du jamais vu.
Sauf qu'en réalité, Caroline, la bombe n'a pas vraiment explosé.
Et non, la fameuse bombe démographique, à peine baptisée, était en fait désamorcée. En effet, l'année de publication du livre de Paul Ehrlich correspond précisément au début de la décélération. Les 2% de croissance démographique en 68 sont un record absolu. Depuis, le rythme de croissance n'a cessé de diminuer. Aujourd'hui, on estime que chaque seconde sur Terre naissent 4 bébés et que chaque seconde 2 personnes meurent, ce qui correspond à une augmentation de 1% par an de la population. Autrement dit, toujours plus d'humains, certes, mais toujours moins vite.
Et alors, ce rythme, il va encore diminuer ou pas?
Oui, explosion, implosion, stabilisation, c'est toute la question, Mathieu. Les experts s'accordent sur des projections pour 2050 avec une population autour de 9,5 milliards contre 7,7 actuellement. Mais s'ils arrivent à tomber à peu près tous d'accord, c'est parce que la plupart des humains qui vivront d'ici 30 ans sont déjà nés. Les démographes peuvent donc estimer sans trop se tromper le nombre de naissances et de décès dans cet intervalle. Mais pour la suite, c'est beaucoup plus flou, tellement flou que l'on peut passer du scénario de l'explosion démographique à celui du déclin total.
Je me souviens plus très bien quand j'ai commencé à perdre espoir. Franchement, à partir du moment où les femmes peuvent plus avoir d'enfants, en quoi on pourrait bien avoir encore espoir ?
Ah oui, là, il n'a pas le moral.
Non, c'est Clive Owen, il est totalement au fond du gouffre, là. Il interprète le personnage principal d'un autre film très chouette, Le Fils de l'Homme, qui est sorti en 2006. Et dans ce super film de science-fiction, on embrasse parfaitement le scénario de la post-transition démographique. Qu'est-ce que c'est que
oui,
ça
s'il vous plaît.
Alors, petit rappel, la transition démographique, c'est le modèle énoncé à la fin des années 20, qui décrit un monde dans lequel le taux de fécondité est suffisamment élevé pour assurer le renouvellement des générations et suffisamment bas pour éviter l'accroissement. Ce taux idéal, c'est 2,1 bébés par femme, sachant qu'actuellement nous sommes à 2,4 par femme dans le monde. Voilà pour la transition. Et donc après...
Oui, en 2100 par exemple.
En 2100, du côté des Nations Unies, les démographes estiment que le nombre d'humains sur Terre se fixera autour de 11 milliards et n'évoluera plus qu'à la marge. Mais d'autres démographes, membres du prestigieux Institut International d'Analyse des Systèmes Appliqués, basé en Autriche, ces démographes misent, eux, sur une stabilisation dès 2070 autour de 10 milliards, suivi par un déclin lent mais inéluctable du nombre d'humains sur Terre. Dans ces projections, le taux de fécondité poursuivra une décroissance sous le taux de remplacement, comme ça se produit déjà dans la plupart des pays occidentaux, ainsi que dans la Chine. Donc les experts autrichiens parient sur une généralisation du mouvement au reste de la planète. Et il faut savoir que le plus grand fantasme en matière de déclin de la population, c'est indéniablement celui incarné par le Japon, avec une fécondité d'environ 1,4 enfants par femme. D'ailleurs, il y a 10 ans, un groupe de statisticiens japonais, tout ce qu'il y a de plus sérieux, a poussé le curseur de la population de l'archipel jusqu'au 3e millénaire. Et avec les indicateurs de fécondité de l'époque, ils estimaient que la population japonaise allait se diviser de 10 tous les 100 ans. Petit exercice de mathématiques. À ce rythme, il n'y a donc plus que 1000 Japonais en 2800, 100 en 2900 et 10 en l'an 3000.
Oui, c'est pas beaucoup donc. Les projections à long terme sont donc plus une sorte de petit jeu qui sert à faire peur ou à faire quoi réagir en
Oui,
fait,
en fait, voilà, c'est exactement ça. Si les États continuent de commander des projections lointaines à long terme, c'est dans l'espoir d'influer sur les grandes tendances. Et le rôle des projections démographiques à 100 ans et plus, c'est bien plus de contrecarrer l'avenir que de le prédire.
Merci beaucoup Caroline Tourbe, chronique détox qui est à réécouter évidemment sur la page de la Terre au Carré. À vendredi prochain. Et dès lundi, une nouvelle série de reportages dans l'émission avec Julie Pietri qui plongera pour nous dans le quotidien d'une famille zéro déchet avec Céline et Grégory. Tout commence lorsque Céline, la mère de famille, est revenue d'une conférence de P.A. Johnson, la papesse du zéro déchet. Voici un avant-goût de ce reportage.
Hop, allez-y, dans le salon. Julia, tu montes aussi, comme ça on est tranquille. La table est débarrassée.
Vas-y. Vous vous souvenez dans quel état vous êtes rentrée chez vous de quoi vous avez parlé à votre mari ce soir-là?
Ben oui, j'étais hyper enthousiaste, donc on a envie de tout changer. Bon, l'enthousiasme a été moins partagé.
Moi, je ne savais même pas qui c'était B.A. Johnson. Je me suis dit encore, elle a été un truc d'uluberlu, bobo, écolo.
Donc ça crée des tensions, et entre nous, au début notamment, quand il partait faire les courses chez le boucher, par exemple, chez le fromager, et que je voyais qu'il préparait juste un cabas et pas de boîte en plastique.
Donc des boîtes pour que les commerçants mettent le fromage directement dans votre boîte et pas de sachet en plastique.
Au début, c'est vrai que je le faisais pas. Céline allant très vite sur les sujets, voulant imposer un peu une sorte de diktat à la maison sur ce sujet. Moi, je dis non, on va y aller tranquillement, donc me force pas.
Voilà, la famille zéro déchet, c'est la semaine prochaine. Reportage à découvrir lundi dans la Terre au Carré. Notre invité découverte dans un instant est grand reporter. Il vient de réaliser cet été des reportages sur les incendies en Sibérie, les inondations. Son sujet est diffusé demain sur Arte. Il nous en parle dans un instant, juste après Begin Again, la voix de Norah Jones. Bon après-midi et bon début de week-end sur Inter.
Ever thought that I ignore? Now the question's at my door. It's where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here. I drank to clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before. Felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Can a nation built on blood find its way out of the mud? Will the people at the top lose their way enough to stop? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again?
La douce voix de Norah Jones avec Begin Again.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
Cette année encore, il a fait très chaud en été. Trop chaud pour les Russes de Sibérie.
Le facteur le plus important, c'est bien sûr le fait que l'on a subi une canicule. Plus d'un mois avec 35 degrés, pour nous, c'est exceptionnel. C'est difficile et ça a des conséquences catastrophiques. Pour nous, les Sibériens, si on se retrouve en Afrique, ça ne va pas aller. Plus 40, non, mais moins 40, on y est habitué, on survit sans problème. Mais c'est vrai que ce problème devient planétaire. Ça nous touche tous.
Extrait de ce reportage, Russie coup de chaud en Sibérie, qui sera diffusé demain, samedi, à 18h35 sur Arte, dans le cadre de la journée spéciale climat qu'organise la chaîne. Bonjour, Vladimir Vazak.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter, c'est vous qui avez réalisé ce film avec Lisa Zamyslova. On a beaucoup parlé ces derniers temps des incendies en Amazonie, mais ce documentaire nous rappelle à juste titre que la Sibérie, elle aussi, doit faire face à des incendies de très très grande ampleur. Vous citez un chiffre dans ce documentaire, 10 millions d'hectares qui sont partis en fumée rien qu'en 2019.
Oui, les chiffres sont impressionnants et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que c'est pas la première année que ça se produit avec Lisa Zamyslova. Nous, on était prêts, on savait déjà depuis le printemps, ça fait quelques années que je travaille avec elle, elle est à Moscou, on savait que ça allait se reproduire et on s'est dit au printemps, on s'est dit si ça se reproduit, il faut essayer d'aller faire le tournage là-bas. Parce que, alors évidemment, l'Amazonie est arrivée. Beaucoup de gens ont proposé de faire le reportage en Amazonie, mais mon rédacteur en chef, Philippe Rachet, a dit non, nous on choisit de traiter la question du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, à partir de la Sibérie, parce que c'est un peu différent. Et on en parle beaucoup moins, parce qu'évidemment la Sibérie c'est difficile d'accès. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu, ce qui est intéressant pour un journaliste, c'est un peu cynique ce que je dis, mais c'est comme ça, c'est qu'on a eu la conjonction d'incendies très importants, comme depuis plusieurs années,
et d'inondations.
Donc ce sont des phénomènes extrêmes.
Qui sont liés tous les deux au
réchauffement. Mais oui, bien sûr, c'est lié, parce que c'est toujours le même problème. C'est que vous avez un élément déclencheur qui peut être à la fois, ça peut être criminel, ça peut être une bouteille de vodka qui traîne au sol et qui fait que ça fait un effet de loupe et ça brûle. Ça peut être, aux États-Unis, c'était l'incendie dans la ville de Paradise l'automne dernier. C'était un court-circuit sur un circuit électrique. Mais vous ajoutez un incendie qui se déclenche sur une terre sèche depuis des mois, avec des vents exceptionnels, ça a des conséquences catastrophiques. Et c'est ce que l'on voit partout. Et les inondations, elles sont évidemment accentuées par le fait qu'il y a eu réchauffement, donc fonte des neiges éternelles, parce qu'il y a des montagnes en Sibérie qui sont à plus de 3000 avec des neiges éternelles, fonte de ces neiges. Donc l'eau est beaucoup plus importante, évidemment, et comme il coupe les arbres sur les rives...
Vous dites c'est un boulevard. Hein.
Et voilà, c'est un boulevard, et donc là, on a des images, vous verrez dans le reportage, des images très impressionnantes avec des maisons qui sont comme des jouets, quoi. Ils sont complètement renversés.
Vladimir Vazak, ce qui est intéressant aussi d'un point de vue sociétal, c'est de voir que pour la première fois peut-être, la société russe, et les Sibériens en particulier, prennent conscience vraiment là du problème, quand même, du réchauffement.
Oui, et ils sont beaucoup plus conscients qu'on imagine. C'est assez impressionnant parce que on a l'image d'un pays très monolithique avec Poutine qui tient le pays comme ça d'une main de fer. Et puis en fait, on découvre encore plus en Sibérie, parce que c'est un territoire lointain par rapport au pouvoir central, des gens qui sont parfaitement conscients du problème. Ils sont d'autant plus conscients que les Russes ont un rapport à la terre et au climat en Sibérie qui est très fort.
À la nature, tout simplement.
Quand ils vous disent « je ramassais ici des champignons », c'est pas juste une formule pour dire « je venais ici le dimanche », c'est que ça fait vraiment partie de leur culture, de leurs loisirs, de leur alimentation, ça fait partie de leur vie, le rapport à la nature. Et donc, ils prennent conscience qu'il y a quelque chose qui se passe. Et évidemment, ils sont au courant aussi des incendies en Amazonie, de tout ce qui peut se passer dans l'ordre de catastrophes climatiques. Parce que les médias russes, évidemment, ne se gênent pas pour montrer aussi ce qui se passe dans le monde entier quand ça ne va pas.
Ils sont dus à quoi, ces feux en Sibérie ?
Les feux en Sibérie peuvent avoir plein de raisons. Au départ, l'étincelle, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une bouteille de vodka qui traîne au sol et qui fait que ça brûle parce qu'il fait chaud et donc il y a un effet de loupe. Ça peut être un incendie criminel parce qu'il y a des coupeurs de bois, des gens qui viennent couper des parcelles et qui ont besoin d'exploiter. Alors, il peut y avoir des règlements de compte. Il y a vraiment mille raisons.
On a du mal à ça. Il y a la déforestation aussi, comme
évidemment,
au Brésil.
Dans le reportage, on a une séquence assez étonnante avec un chef pilote. Un chef pilote, c'est les pilotes qui viennent surveiller qui viennent localiser les incendies. Et le chef pilote nous dit avec une franchise absolument incroyable, il nous dit, mais écoutez, on n'arrête pas de couper. Ça fait, moi, quand j'ai commencé, on coupait à 30 km de la rivière. Maintenant, on est à 300 km de la rivière. On n'arrête pas de couper. Là où on coupe, vous avez un sol qui est ensoleillé. Donc, il n'y a plus d'humidité dans le sol. Les vents passent plus facilement. Donc, dès qu'il y a une petite étincelle, dès qu'il y a un problème, eh bien, c'est parti. Voilà.
Vladimir Vazak, est-ce que les gens sont résignés là-bas ou au contraire plutôt combatifs? On voit, alors il y a une climatologue qui, elle, évidemment, dit que la science, elle connaît évidemment tout ce qui se passe. Et puis, il y a cet éleveur qui a perdu tous ses animaux, qui n'a absolument plus rien. On le voit discuter sur le pas d'une maison. L'air un peu déprimé quand même, ouais, il est très touchant, hein,
ouais,
ce monsieur.
Ouais, il est très touchant, d'autant plus que ça fait partie un peu de cette mentalité russe qui est parfois un peu désespérante, il y a une espèce de fatalisme des Russes. Ils vous disent en russe, etagisme, c'est la vie. Et donc ils sont là comme ça, et puis ils fument leurs cigarettes, ils boivent leur vodka, et c'est
ils
un
disent,
peu...
Ils disent, on va passer le nouvel an, et puis après, je mourrai.
Après, je mourrai. Et alors donc, évidemment, ça a des conséquences humaines terribles. Et donc, les gens, est-ce qu'ils se mobilisent? Oui, vous avez des scientifiques qui sont parfaitement conscients du problème. Alors, cette femme, à l'Institut de la Forêt dans la ville de Krasnoïarsk, elle est parfaitement consciente du problème parce qu'elle est en contact avec des universitaires nord-américains, notamment sur ces questions-là. Elle sait très bien ce qui se passe, mais elle est un peu seule dans cet institut. Ouais. En aparté, on a découvert que finalement, la direction de l'Institut de la Forêt n'aime pas trop, parce qu'elle fait un peu lanceuse d'alerte, vous voyez, elle vient un peu dérangée, quoi. Donc voilà, mais elle est quand même là, elle s'exprime, parce qu'elle n'a pas grand-chose à perdre à l'âge qu'elle a, et vu finalement du fin fond de la Sibérie, elle ne dérange pas trop. Mais c'est assez étonnant. C'est que dans la société russe, vous avez des gens qui sont extrêmement bien éduqués, qui ont un niveau d'éducation remarquable, et qui sont parfaitement conscients du problème.
Elle parle des sceptiques d'ailleurs, qui disent mais en Sibérie depuis des milliers d'années on a connu des incendies, etc. Sauf qu'elle dit exactement ce que disait Gilles Boeuf tout à l'heure, c'est la rapidité du phénomène à l'échelle humaine.
Le rythme
est stupéfiant. Hein.
Oui, le rythme, c'est qu'à l'échelle d'une vie, on voit des territoires entiers changer, disparaître. Et à l'échelle de nos vies, à nous ici autour de cette table et les gens qui écoutent, on le voit.
Vous parliez tout à l'heure des incendies au Brésil, en Amazonie. Vous avez dit, mon rédacteur en chef, on a dit, allez, on part quand même en Sibérie. Pourquoi est-ce que les incendies en Sibérie, quelque part, marquent moins mondialement qu'un incendie dans la forêt amazonienne?
Parce que je pense que la forêt amazonienne, il y a un côté un peu mythique. Cette forêt, elle fait partie du mythe de la terre telle qu'on apprend à la connaître à l'école. Il y a aussi le fait qu'il y ait le président Bolsonaro, qui était un personnage un peu compliqué avec des relations conflictuelles avec Macron. Donc c'est arrivé au même moment, cette histoire-là. Et puis la Sibérie, évidemment, c'est plus difficile d'accès. C'est loin. Il faut un visa pour y aller. Il faut une autorisation de tournage et tout ça. Donc voilà. Moi, il se trouve que j'ai la chance d'avoir un visa pour aller en Russie assez souvent. On demande l'autorisation de tournage pour aller en reportage. C'est pas très compliqué. La Russie n'est pas ce pays complètement bloqué qu'on peut imaginer parfois. Hein. Il y a des espaces de liberté d'expression.
Mais c'est aussi grave que la forêt amazonienne, par exemple. Enfin, si on peut comparer, je sais pas d'ailleurs.
C'est aussi grave que la forêt amazonienne, comme ce qui s'est passé à Paradise en Californie, où j'ai été au mois de janvier dernier faire les conséquences de cet incendie. Le fait qu'une ville entière soit totalement détruite, c'est gravissime. Alors évidemment, la réponse, est-ce que c'est une réponse les Américains vont avoir tendance à répondre de façon un peu en disant oui, on va réussir à reconstruire, on va le refaire. Les Russes aussi, ils vont faire ça, c'est le discours de Poutine dans le reportage, on dit on va reconstruire.
Oui.
Mais on sait très bien qu'il y a des espaces qui vont être sacrifiés. On a dans le reportage la séquence avec une école. L'école va pas être reconstruite dans ce petit village, et donc le petit village va disparaître, il n'y a plus d'école.
Et il y a quelque chose de très politique, parce qu'on voit Poutine se déplacer dans l'année, trois fois de suite au même endroit, pour bien montrer que...
Deux fois pour tirer les bretelles des autorités locales, une troisième fois pour inaugurer en grande pompe l'école reconstruite, et il est remarquablement efficace dans sa stratégie, et il se comporte vraiment comme un tsar.
Merci beaucoup Vladimir Vazak. Russie, coup de chaud en Sibérie, c'est à voir dès ce soir 18h sur arte.tv, et demain, devant son petit écran là aussi, sur Arte, 18h30, dans le cadre de la journée spéciale climat. Merci beaucoup. Bon week-end, Camille.
Bon week-end, à lundi.
À lundi. Voilà, merci à Denis Delbecq, qui était le rédacteur en chef de cette émission. Le temps pour moi également de remercier toute l'équipe, Chantal Le Montagnier, Lucie Sarfati, Irène Menahem pour la préparation des dossiers, Anna Massardier pour les réseaux sociaux et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. Juliette Delperrou et Pauline Laverdure étaient à la technique. Merci aux standardistes, j'ai oublié personne. N'oubliez pas de réécouter La Terre au Carré sur franceinter.fr, bien sûr, et on parlera lundi de la couche d'ozone à l'occasion d'une journée internationale justement de protection de la couche d'ozone.